Bonjour mes bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient multipliées en vous. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ce jour pour continuer avec vous le partage et l'étude sur le chapitre 54 du livre d'Ésaïe de notre Sainte Bible pour poursuivre avec vous l'étude sur cette série-là que nous avons commencé il y a plusieurs semaines déjà. Et aujourd'hui, nous étudions le texte d'Ésaïe 54 et particulièrement le thème « Élargis l'espace de ta tente », qui est une instruction que l'Éternel donne de façon générale, de façon globale, comme nous l'avons déjà vu, en cette saison, à l'ensemble de son Église, au peuple de Dieu. Nous avons entrepris dans cette étude vraiment de chercher véritablement la pensée de Dieu, essayer de comprendre la révélation profonde qui se cache derrière les simples mots, qui doit se lire au travers de ce texte, un merveilleux texte vraiment de promesses, d'espoir et d'action que le Seigneur nous donne en cette saison. Dans les messages précédents, nous avons développé l'instruction principale que l'Éternel nous donne, d'élargir l'espace de notre tente, d'allonger nos cordages et d'affermir nos pieux. C'est le verset 2. Nous avons d'abord étudié la recommandation principale qui était au verset 1, d'être joyeux, de développer notre nature de joie. Nous avons vu ce que ça pouvait signifier, cette recommandation de Dieu. Nous avons compris vraiment la dimension d'avoir une nature joyeuse aussi. Nous avons poursuivi en regardant avec détail les promesses qui sont contenues dans ce texte, par exemple au verset numéro 3. Et nous avons aussi analysé et détaillé, décortiqué toute l'assurance de la restauration que le Seigneur nous donne dans les versets 4 à 10 de ce même texte. Et nous avons commencé à étudier ce que j'ai appelé les actions que l'Éternel veut mener avec nous, qu'il veut déployer son plan d'action, son mode opératoire. Nous avons commencé à l'étudier dans les versets 11 et 12. Et dans ces versets 11 et 12, jusqu'à présent, nous avons étudié l'action qu'il nous promet en nous disant « Je garnirai vos pierres d'antimoine ». Nous l'avons étudié ça. Ça nous a vraiment béni. Nous avons étudié aussi lorsqu'il nous promet « Je vous donnerai des fondements de saphir ». Alléluia. Vraiment. Nous avons dit à quel point Père nous attendons, nous mettons vraiment en prière pour recevoir ces fondements de saphir. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au verset 12a, où il nous dit « Je ferai tes créneaux de rubis ». Voilà, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est ce mode opératoire que le Seigneur veut nous délivrer aujourd'hui. Nous allons nous atteler à ça. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous remettre tout ce temps à l'Esprit de Dieu, qui est le seul capable de nous faire saisir, comprendre, marcher dans la pensée divine. Prions, Père éternel Dieu de gloire, Papa, tu es bon, tu es merveilleux, tu es le mighty God, tu es l'éternel, le seul vrai Dieu. Oh Seigneur, Papa, nous te regardons, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous t'adorons, nous te rendrons dimanche cette action de grâce, pour l'amour que tu as eu pour nous. Oh Père, pour que tu viennes toi-même te faire homme en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, pour nous racheter de la vie manière de vivre que nous avions, pour nous amener, au Père éternel, à ta lumière. Nous te disons merci pour cet amour, Seigneur, du Père de puissant. Ta bonté est immense. Nous te disons merci aussi pour le Saint-Esprit que tu as mis en notre disposition. Car notre Seigneur et roi Jésus-Christ nous dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie le Paraclet. Lui, il connaît toutes choses et il vous enseignera et vous rendra capable de tout. Ô Saint-Esprit, Dieu, je t'invite maintenant à prendre toute la place qui t'est due. Viens occuper ton temple et agis au travers de nous. Sans toi, Saint-Esprit, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Sans toi, Saint-Esprit, je suis vide. Sans toi, Saint-Esprit, ce que je dis ne sont que des mots. Viens, Saint-Esprit, occupe le temple qui est le tien. Occupe le temple sanctifié par le sang de Jésus, qui nous a rendu, à même par son sang et par sa chair, capable de t'accueillir. Viens, occupe toute la place. je te soumets toute ma volonté. Parle par ma bouche. Parle à ton peuple, parle au peuple de Dieu, maintenant. Et traduis les mystères de la parole de Dieu, la pensée de Dieu en cette saison. Fais-nous comprendre, enrichis-nous. Oh, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses, maintenant et à toujours, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je ferai des créneaux de rubis. Ah, nous allons relire le texte 11 et 12 qui nous décrit les actions de Père. Il nous dit, après avoir donné la restauration, l'assurance de la restauration dans les versets 4 à 10, il nous dit, malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Nous avons déjà parlé de ça aussi. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Dieu nous dit, voici. Voici, ça veut dire le moment est venu. Voici, il nous détaille, il nous décortique. Il ouvre devant de nous son plan d'action. Il décrit son mode opératoire pour tout ce qu'il nous a promis dans les versets avant, pour tout ce qu'il veut faire avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons nous occuper de comprendre « Je ferai tes créneaux de rubis ». Amen. Quand nous regardons ce verset « Je ferai tes créneaux de rubis », je disais, il y a des mots qu'on comprend tout de suite et il y a des mots qui nous paraissent importants d'aller regarder sa signification, d'aller regarder ce que ça veut dire. Donc ici, nous avons trois mots qui vont être particuliers. Nous avons le verbe « ferai », nous avons « créneau », nous avons « de rubis » qui va nous sembler important d'aller regarder. « Ferai », c'est le verbe « faire ». Et quand nous regardons le verbe « faire », que ce soit sa traduction française dans le dictionnaire, que sa traduction du Code Strong dans le dictionnaire hébraïque. Nous rappelons que ce texte est un texte de l'Ancien Testament et à ce moment, il parlait en hébreu. Voilà. Donc, nous nous rendons compte que le verbe faire, c'est le verbe d'action par excellence. C'est le verbe qui traduit qu'un travail doit être fait. C'est le verbe qui conduit à une action, un travail de façonnage, un travail de création, un travail de modélage, un travail de transformation, un travail de fabrication ou de réalisation. Cela augure que toutes ces actions peuvent être faites, doivent être accomplies en vue d'obtenir un résultat qui est concret, qui est formel, qui est visible, qui est palpable. Lorsque l'on est dans une action de faire, au bout de faire, il y a quelque chose de visible, il y a quelque chose de concret qui doit être vu. C'est ça, être un verbe d'action. Cette action de faire peut s'agir simplement de partir de quelque chose qui existait déjà, de la transformer, de la remodeler, de la façonner pour aboutir à quelque chose de différent et de meilleur. Ça peut aussi augurer que l'on parte de rien du tout. On n'a rien, mais on arrive à quelque chose de concret. Là, c'est une action de créer quelque chose, une action de réaliser quelque chose. Amen. Tous ces aspects font partie du verbe faire. C'est une opération qui est dynamique. C'est une opération qui n'est pas seulement dans le sens d'attendre quelque chose ou dans le sens de laisser que l'on fasse. Non, c'est une action qui est dynamique, qui est une succession d'activités et de choses qui doivent être faites, qui doivent être conçues, mises ensemble pour aboutir, pour obtenir quelque chose de définitif, pour obtenir quelque chose de finalisé. Et ce mot « faire » augure que nous nous impliquons nous-mêmes dans ce processus d'action. Le verbe « faire », ça diffère de donner, par exemple. Quand nous avons étudié je te donnerai les fondements de saphir, nous avons vu que le verbe donner est un verbe qui augure un don, qui est un verbe qui se passe dans la tâche est unilatérale. On attend, il y a nous qui attend et l'autre qui donne. Et c'est un don qui se fait sans retour, sans contribution de la partie qui reçoit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dynamique, c'est quelque chose qui se fait dans un même sens, il n'y a pas un échange qui se fait dans le donner. Nous avons vu que c'est un don que Père veut mettre en nous et qu'il est seul capable de pouvoir inculquer ça en nous et que nous n'avons rien à faire pour obtenir des fondements de papier que de prier et de le louer et d'attendre. Parce que quand il promet qu'il va le faire, nous nous mettons seulement en condition de recevoir. C'est différent ici d'en faire. Faire qui est une action dynamique, ça suppose déjà que nous avons une partie prenante là-dedans. Nous avons, pour pouvoir contribuer à faire quelque chose de finalisé, quelque chose de concret, de visible, nous devons nous impliquer à ça. Et c'est important aussi de saisir ça de cette façon. Le mot faire, le terme faire aussi, quand on l'analyse sur le côté purement biblique de la chose, on se rend compte que ce verbe est défini, autrement, il est défini comme nous venons de le définir, c'est-à-dire l'action de pouvoir créer, façonner, transformer, modeler et tout. Mais il porte d'autres significations. Il peut signifier également l'action de désigner quelqu'un, l'action d'ordonner quelque chose ou quelqu'un, l'action de poser ou de se poser, l'action d'établir, c'est-à-dire de définir quelque chose et d'établir une situation ou un état de choses. C'est important parce que ça nous interpelle dans le sens que on peut être défini à être responsable. Ça entraîne ici une notion de responsabilité qui doit être engagée dans ce travail qui va être fait. Amen. Lorsque nous regardons encore ce verset, nous constatons que ici, le terme, Dieu dit qu'il va faire, je ferai tes créneaux de rubis. Quand il a dit également dans le premier verset, je garnirai tes pierres d'antimoine. Nous avons bien expliqué la nuance qu'il pouvait avoir entre tes et des. Quand il a parlé de fondement, il a dit, je vous ferai des fondements de saphir. Et j'ai pris la peine de vous expliquer dans cela qu'il y a une nuance entre tes et des, c'est normal. Quand on utilise le tes, c'est possessif, c'est un terme qui traduit qu'il s'agit de ce qui t'appartient. Quand on dit ce sont tes créneaux, nous comprenons que ici, ces créneaux-là, de prime abord, sont à toi. Dieu promet de s'occuper de quelque chose qui est à toi. Cela augure que nous devons nous impliquer activement et même au préalable dans l'accomplissement de ce qui doit être fait, dans l'action qui doit être menée. Voilà comment dans l'ensemble, moi, je comprends les choses. Nous avons chacun des créneaux. Ou alors nous sommes censés avoir des créneaux. C'est des choses qui, de façon courante, sont déjà en nous. Nous sommes engagés ou impliqués là-dedans. Et que l'Éternel nous dit en cette saison, vous savez, j'ai une mission à accomplir avec vous. Et pour le projet que nous avons à mener ensemble, pour la collaboration et pour le partenariat que nous avons à mener ensemble en cette saison, les créneaux que vous avez là ne me satisfont pas. Alors moi, l'Éternel, je vais venir et à partir de ces créneaux, je vais mener une action de transformation, une action de remodelage, une action de production, une action de fabrication. Je vais mener une action pour que ces créneaux-là que vous avez, vous, deviennent des créneaux de rubis. C'est-à-dire qu'il y a un changement de nature dans les créneaux que nous avons déjà. Amen. Moi, je comprends ça comme ça. Nous ne savons pas encore tout à fait ce que veut dire vraiment les créneaux ou le sens du rubis qu'il va donner. Nous allons le voir plus tard. Mais moi, je comprends déjà que ces créneaux-là sont à nous. C'est-à-dire que en temps ordinaire, nous déployons déjà des créneaux. Ce sont des choses qui sont déjà à notre palpable, concret, ou qui sont supposées l'être. Ça veut dire qu'il y a déjà un dépôt en nous qui devait nous amener à avoir des créneaux. Mais il s'avère tout simplement pour l'Éternel que la nature de ces créneaux, la qualité de ces créneaux n'est pas suffisante, n'est pas convenable pour mener parfaitement une mission avec l'Éternel, pour mener parfaitement un projet avec, pour être partenaires et réussir ce que nous avons à faire. Et l'Éternel nous dit en cette saison, parce qu'il nous appelle à une marche avec lui, et il dit qu'il va faire ce crayon de rubis. Il va changer la nature de ce crayon. Alléluia. Oh, vraiment, que quelqu'un dise amen. Nous allons donc, vraiment sur la base de cette conviction, nous allons étudier, essayer de comprendre de quel créneau il s'agit. Nous allons essayer de comprendre, d'aller chercher vraiment de quel créneau il s'agit véritablement. Ce que ça veut dire, les créneaux, ce que l'Éternel désigne comme étant des créneaux dans nos vies. Quel est l'aspect que le Seigneur veut toucher? Nous avons déjà vu qu'il veut toucher nos pierres. Nous avons compris c'était quoi les pierres. Nous avons vu, il veut changer nos fondements. Nous avons étudié et compris des fondements dont il parlait. Maintenant, nous devons voir quel est l'aspect de notre vie qu'il veut toucher. Quels sont les créneaux que l'Éternel, dont l'Éternel parle. Et de quelle nature, pour être des natures de rubis. Alléluia. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'Éternel veut nous améliorer. Il veut améliorer quelque chose en nous. Vous savez, quand l'Éternel se mêle de quelque chose, il fait toutes choses bonnes. Amen. Parce qu'il est un Dieu excellent. Tout est perfection avec Dieu. Généralement, on dit, le Seigneur nous prend comme nous sommes. Oui, il prend les villes choses pour confondre le monde. Mais il ne les confond pas avec ce qui est vil. Il transforme de façon à ce que ce qui est vil devient excellent pour confondre le monde. Amen. Nous nous souvenons des vases et ces vases. Il dit, celle de terre, il y en a de vil, mais il y en a d'utile, il y en a de digne. Dieu veut que si nos créneaux étaient vils, si ces choses en nous ne sont pas de nature, il ne nous rejette pas. Mais il nous dit, parce que je veux que nous arrivions quelque part, je veux que nous marchions ensemble, je veux que nous produisions ensemble, je veux faire de ces créneaux, je veux faire de ces choses en vous des choses meilleures. Et il nous parle des créneaux de rubis. Je vais faire de ces créneaux en vous une nature de rubis. Oh, j'ai hâte de comprendre ce que l'Éternel veut dire. Pour saisir cela dans les prières, pour saisir cela dans ma conviction profonde. L'Éternel veut certainement augmenter notre potentiel dans des domaines et d'autres. J'ai hâte de savoir dans quel domaine. Il promet là d'augmenter notre potentiel. Alléluia. C'est quoi les créneaux? Nous allons étudier vraiment séparément ces deux notions de créneaux. Nous allons étudier selon la traduction française, quand il a écrit, traduit ça par créneau, à quoi pense-t-il? Qu'est-ce que le dictionnaire Larousse nous traduit par créneau? Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons étudier le mot créneau dans la signification hébraïque, et je vous assure, c'est dense, c'est large, c'est même surprenant. Moi, je suis toujours surprise quand je vais chercher la pensée divine. La pensée divine, vraiment, dans les textes hébraïques, moi, je suis toujours surprise de la portée, de la dimension de ce qui nous veut libérer. Amen. Donc, le Larousse définit le terme créneau de plusieurs façons. Nous allons avoir trois ou quatre dimensions du mot créneau qui vont se recouper, certes, mais qui vont permettre de voir vraiment les différents domaines qui sont concernés par ce terme créneau. Il définit créneau comme étant l'ouverture en général répété, pratiqué dans un parapet pour observer ou tirer à l'abri des coups des adversaires. Je suis allée regarder un peu plus loin. J'ai dit, wow. On définit les créneaux dans un premier temps. Ils ont défini les créneaux comme étant ces espèces d'encoches que l'on retrouvait sur le sommet des forteresses qui entouraient les villes. Sur les sommets des tours qui entouraient les villes dans les temps anciens, on a défini comme créneaux, on a pris l'exemple, ils ont pris dans le dictionnaire l'exemple des châteaux forts, de la façon dont les bâtisses et les villes étaient bâties dans les temps anciens. Et ils ont défini, ils ont dit qu'ils désignent comme étant des créneaux en haut de la passerelle, en haut de la tour, il y avait comme ça en dents de scie. Le mur ne se terminait pas de façon plane partout, non. Le mur était terminé par encoche. Quand on regarde, on se dit, ah, c'est quoi ces dents de scie là? Et tout, ça avait un rôle particulier. C'était des encoches qui étaient tracées sur le mur, sur la muraille, sur la balustrade, pour permettre, figurez-vous, pour servir de rempart de protection. C'était les parties qui étaient préparées à l'avance pour pouvoir placer la bouche du canon de bataille de char ou alors de placer l'arsenal de guerre. Parce que les murailles, vous savez, avaient toujours... c'était pas des murs aujourd'hui en parpaing de 15 ou de 20 comme on fait aujourd'hui. Quand on parle de murailles qui encerclaient une ville, les murailles de protection, c'était c'est pas 10 mètres, 20 mètres même. C'était toute une vie se déroulait dans les murailles. C'est là où on mettait aussi tout l'arsenal de guerre. Et au-dessus des murailles, il y avait des plateformes. Donc, quand on y disposait des personnes pour regarder au loin, pour sonner des sentinelles, pour disposer les archers. Quand les archers devaient tirer sur le front, comme vous voyez des gars, les guerres qui se passent dans les temps anciens, vous voyez que les archers se posent au-dessus de la balustrade et ils tirent au travers de ces encoches-là. Voilà. Donc, c'était des dispositifs qui étaient faits expressément pour servir de protection, pour permettre à aux soldats, pour permettre aux personnes qui défendaient en temps de guerre de se tenir cachées par le mur qui s'élevait, mais de pouvoir quand même avoir à hauteur de Dieu ou à hauteur d'âme une encoche qui devait permettre quand même aux tirs qui étaient pratiqués de partir et d'atteindre l'ennemi, à la flèche qui était tirée, sans que la personne qui tire la flèche soit exposée. Donc, on définit des créneaux comme étant ces ouvertures-là qui étaient faites dans le but de pouvoir observer et tirer sur l'ennemi tout en étant à l'abri. C'est ce que l'on appelle les créneaux. Ce sont des endroits ou des postes que l'on occupe et à partir duquel on peut agir efficacement. On peut atteindre l'ennemi sans être exposé. On définit donc pour moi le créneau. C'est un rempart de défense. Donc, le mot créneau est d'abord défini sur un plan de la défense. C'est pour attaquer victorieusement et se défendre, pour attaquer sans être atteint. Donc, c'est quelque chose qui se place entre l'ennemi et toi pour que tu sois protégé, mais pendant que tu mènes bataille. Ce n'est pas un lieu de refuge, non. Ce n'est pas un endroit où tu vas te planquer, non. Tu es en bataille, tu es en lutte, tu es en combat. Mais c'est un arsenal, c'est un élément qui se place entre l'ennemi et toi pour te protéger toi pendant que tu es en action contre l'ennemi. Oh, ça c'est fantastique. C'est différent d'un bouclier. Je ne peux pas définir ça comme étant un bouclier, non. Parce que le bouclier est à la main du soldat. Et le soldat va en corps à corps. Le bouclier, c'est vrai, va te permettre de te protéger contre l'armée, mais dans ton entièreté, tu n'es pas protégé. Le bouclier ne protège pas tes pieds. Quand tu lèves le bouclier, tes pieds sont exposés. Toute la partie basse de ton corps sont exposés. Les créneaux, non. Dans les créneaux, c'est un rempart. Ton corps entier est protégé. Et par les créneaux, tu peux atteindre l'ennemi. Mais cette balustrade te protège toi aussi. Parce que ton corps est à l'abri quand tu uses des créneaux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Moi, ça me permet d'avoir une autre dimension du combat spirituel. Une autre dimension des plans d'attaque. Quand nous levons pour prier, c'est très, très important de prendre conscience de ces choses-là. Et de se dire dans la prière que, waouh, le Seigneur nous interpelle à une nécessité là. À une nécessité de veiller à nos créneaux pendant que nous montons en guerre. Amen. Il nous apprend les stratégies des batailles victorieuses. Oh my God. Merci Seigneur. Nous définissons, le dictionnaire là où se définit, le créneau aussi, comme étant un espace de temps disponible. Un espace de temps disponible dans un emploi du temps. C'est un créneau de temps. Le langage courant même dit souvent, ah, je vais chercher un créneau là. Je vais essayer d'obtenir un créneau dans le temps. Parce que nous disons peut-être des choses comme ça souvent sans avoir la portée spirituelle de ce que nous vivons. C'est un créneau de temps disponible. Et ce créneau de temps, nous allons le voir, la signification véritable que ça prend, lorsque nous allons étudier le mot créneau dans son sens hébraïque. Donc, nous avons vu d'abord que le créneau, c'était dans la dimension de la défense, un rempart de défense. Deuxièmement, nous voyons que c'est un espace-temps. Amen. Un créneau également, en français, est un espace dans l'environnement. C'est un espace, le dictionnaire le définit comme un espace où l'on peut exercer au mieux une activité et réussir. Wow. On parle de créneau d'affaires, on parle de créneau d'idées, c'est dans l'environnement global, un espace, un lieu, un milieu, une activité, un domaine quelconque où l'on peut exercer une activité et la réussir. C'est ça qui prend le nom de créneau, un créneau d'affaires. C'est défini dans un contexte donné, dans un domaine donné, dans un secteur de marché donné, pour un type de clientèle donné, pour un type de produit donné, pour une idée excellente, une idée divine que l'on ne peut pas porter. On appelle ça aussi avoir des créneaux dans un environnement, dans des activités que l'on veut mener, avec réussite. Parce que les activités qu'on veut mener à la fois, mais tous ne sont pas des créneaux. Lorsqu'il y a une certaine assurance de réussite, ça devient un créneau. Et généralement, les créneaux sont étroits. Ils ne sont point larges. Ce sont des choses qui sont spécifiques. Amen. Dans l'ensemble, nous voyons que les créneaux, que ce soit un rempart de défense, que ce soit un espace-temps, que ce soit un espace environnemental, un domaine, un secteur donné, nous remarquons que les créneaux sont faits pour favoriser l'occupation d'une position qui est une position originale. Je vais me répéter. Quelle que soit cette forme de créneau, nous nous rendons compte que ce sont des éléments qui sont faits pour favoriser l'occupation d'une position originale, stratégique, dans quelque aspect que ce soit. Alléluia. Ces éléments sont en faveur d'une occupation réelle. Vous vous souvenez, du premier message, quand nous avons fait le message sur élargir l'espace de votre tente, on a dit que l'élargissement prenait des significations différentes. Ça peut être, ça avait quatre niveaux. Et l'occupation était le quatrième niveau. Et l'occupation avait un sens de la productivité, c'est-à-dire de passer à l'action, de mener des actions pour pouvoir véritablement, stratégiquement, être détenteur de ce qui avait été élargi. Et ici, l'Éternel nous fait comprendre, dans le travail que nous faisons, que lorsqu'il parle de créneaux, il nous dit que ce sont des éléments qu'il va mettre dans nos vies, des éléments qu'il va upgrader dans nos vies, qui vont favoriser l'occupation d'une position stratégique et originale. Oh, my God. Merci Seigneur, ça me plaît. Dans un domaine, dans quelques domaines, qu'il va déjà ouvrir nos yeux pour des secteurs stratégiques, pour des créneaux stratégiques, pour des domaines stratégiques, pour des temps spécifiques, qu'il va façonner des remparts de défense pour nous, afin de favoriser cette concrétisation de l'action d'occupation pour occuper ces positions stratégiques, pour occuper véritablement ce domaine d'élargissement. Parce que quand il nous dit d'élargir l'espace de notre tente, nous occupons forcément des domaines. Nous empiétons forcément sur des domaines nouveaux. Et l'Éternel nous dit que par les créneaux dont il parle, nous allons occuper. Alléluia. Nous allons occuper. Quand nous pensons au cours de la route, juste pour rire, et on nous dit, il faut apprendre à faire un créneau. Nous savons que le créneau en cours de routier, c'est d'occuper un petit espace laissé entre deux véhicules. On dit, est-ce que tu sais faire un créneau? Et c'est un élément fondamental pour pouvoir t'octroyer le permis de conduire. Parce que si tu sais, avec ton véhicule, manœuvrer stratégiquement pour pouvoir te positionner dans le petit espace qui est laissé entre deux véhicules, c'est que, ouais, tu mérites le permis, là. Alléluia. Et c'est la même visibilité qu'il faut avoir. C'est la même portée qu'il faut regarder. Ça veut dire que quand tu arrives sur des terrains, tu arrives sur des domaines, ils ne sont pas laissés vides. Pas du tout. Ils sont occupés. Quand tu vas sur une bordure d'une route pour te garer en plein marché, en pleine ville, il y a d'autres voitures qui sont garées et chacun s'est garé n'importe comment. Parfois, il s'agit même d'une place de parking réelle, mais d'autres ont empiété sur ce parking. Il reste juste un espace suffisant, mais la zone de manœuvre est limitée. Mais il faut encore avoir de la stratégie, de l'habilité pour pouvoir te frayer et occuper cette place-là. C'est vraiment la visibilité que le Saint-Esprit me donne. Le Saint-Esprit me dit, regarde dans ce processus. C'est de ça que l'Éternel veut parler. Et nous allons comprendre quand il nous dit. Il dit ces choses-là. Il les a même mis en nous. C'est-à-dire, par temps ordinaire jusqu'à présent, par nos propres forces, par nos propres moyens, nous essayons de réfléchir, de penser et d'avoir des créneaux comme ça dans le monde. Nous commençons des activités par nous-mêmes, etc. Nous essayons justement d'occuper des espaces, des domaines, des secteurs d'activité par nous-mêmes, par nos propres forces, nos propres connaissances, nos propres compétences. Nous essayons de nous défendre tant bien que mal. Nous usons de nous retroussons les manches, nous usons de nos connaissances, etc. De notre gueule parfois, de nos épaules, nous usons pour menacer le voisin qui veut venir empiéter sur notre terrain. Nous faisons ces choses quotidiennement déjà. Mais l'Éternel, notre Père, nous dit oui, vous avez beaucoup essayé. En cette saison où je veux marcher avec vous, en cette saison où je veux que nous allions quelque part ensemble, ces créneaux-là, je vais vous les faire de rubis. Oh, God. Ça veut dire que vous vous débrouillez par vous-même, ce n'est pas parfait. Vous vous débrouillez par vous-même, ça ne garantissait pas la victoire. Vous faisiez beaucoup de choses, oui, mais ça ne favorisait pas la véritable occupation. En cette saison, je vous dis, je vais faire des rubis. Je vais les transformer, ces créneaux. Ah, mon Dieu. Père, oui, Seigneur. Oui, Père, merci. Merci, parce que tu nous challenges vraiment. Merci, oh Dieu, pour les créneaux de rubis que tu promets. Ah, nous allons étudier le mot créneau sur le plan hébraïque, sur le plan vraiment spirituel du terme. Nous l'avons vu sur le plan des actions, sur le plan, moi je dirais, ce que nous venons de définir, ben, c'est l'aspect physique du créneau, l'aspect naturel du créneau. C'est ce que nous déployons, ce que notre nature humaine déploie tous les jours. Amen. Nous allons regarder la dimension spirituelle du mot créneau. Amen. Nous constatons que lorsque nous regardons la signification du mot créneau, dans le dictionnaire Strong, c'est le shemesh. Et ça prend une définition assez particulière. Shemesh se définit comme étant les levées et les couchers du soleil. Wow. Et vous savez quand on demande. Quand on l'appelle le Saint-Esprit divin, il est toujours présent pour nous éclairer, pour nous ouvrir l'esprit et nous dire, vois, regarde. J'ai compris, j'ai perçu que les levées et les couchers du soleil étaient définis ici comme étant des moments de fragilité. Ce sont des moments de fragilité, nous le savons. Ce sont des moments où nous sommes exposés au danger. C'est un espace-temps qui est un espace de danger. C'est un espace où nous sommes exposés. Nous allons prendre d'abord sur l'espace-temps où le soleil se couche. Puisqu'on nous dit le chemin, ce sont les levées et les couchers du soleil. Nous allons commencer par le coucher du soleil. Vous savez que dans le calendrier lunaire, le jour commence à 18h. C'est la première partie de la journée. C'est la nuit. Donc nous allons commencer par les couchers du soleil. Le moment où le soleil se couche, nous savons qu'à ce moment-là, qu'on le veuille ou pas, on quitte la lumière pour entrer dans l'obscurité. Pour entrer dans la nuit. Et que l'on le veuille ou pas, on va côtoyer le monde des ténèbres. Parce que c'est son heure. C'est son heure. C'est le moment de la nuit. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. En fait, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de la nuit aussi. Et les œuvres de la nuit se font la nuit. Nous n'y pouvons rien, nous ne pouvons pas décocher cela. C'est le commencement d'un nouveau jour. Mais c'est des temps de fragilité. Nous voyons que
C'est les moments où les œuvres de la nuit se lèvent et commencent et veulent entrer en action. Mais ceux qui vivent dans la lumière doivent également se préparer pour pouvoir contrecarrer l'œuvre de la nuit dans leur vie. Amen. L'Esprit me fait me souvenir de quelque chose dans la Bible qui, c'est Abraham, lorsque l'Éternel lui a annoncé le grand projet qu'il avait avec lui, et quand il a demandé à l'Éternel, comment je saurais que ces choses vont arriver? Nous allons lire, nous allons commencer par le verset 7, à Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderais? À quoi reconnaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie, voilà, il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Vous vous rendez compte? Abraham est en train d'accomplir une instruction divine. Il est en train d'accomplir une instruction que Dieu lui a donnée. Il a dit, Seigneur, comment je vais savoir que je posséderai ces choses que tu me dis? Tu me dis que tu m'as donné ce pays en possession. Comment je vais savoir que je le possède? L'Éternel lui dit, prends ceci, 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 ceci. Fais-moi une offrande. Abraham obéit. Tu savais que Abraham, c'est le père de notre foi. La foi, le père de notre foi. Lui, Dieu dit, il fait. Il ne réfléchit pas. C'est normal. Nous aussi, nous devons faire sans réfléchir. Il dit, tu parles, tu parles. Voilà. Abraham prit donc tout ce que l'Éternel avait dit. Et il plaça tout ça, prépara son autel pour son offrande. Il posa. À peine avait-il posé ses offrandes que les oiseaux de proie se sont abattus dessus. Oui, les oiseaux de proie, c'est l'adversité. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de notre ennemi. À peine avait-il placé qu'il s'était abattu dessus. Abraham, encore éveillé, les chassa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit, au coucher du soleil, le shemesh, dans ce créneau temps où le soleil se couche, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, je vous ai expliqué le « et voici », ici et maintenant, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Que pouvait encore faire Abraham pour défendre l'autel qu'il avait placé? Le coucher du soleil a vaincu Abraham. Le profond sommeil est venu l'envahir. Une frayeur, une grande obscurité. Non, assailli. Est-ce qu'endormi pouvait encore chasser ces oiseaux de proie sur son offrande? Non. Oh, nous savons que ni la peur ni la frayeur ne sont de Dieu, mais du diable. Et que c'est dans cet état-là que nous sommes les plus vulnérables, les plus exposés. Lorsque ça, la frayeur, la peur nous envahit, nous perdons tous nos frères et sœurs. Et c'est le moment comme ça, des couchers du soleil. Le monde des ténèbres s'éveille, se met en action. Il veut posséder les portes de ce nouveau jour qui commence pour pouvoir dominer pendant toute cette journée-là, en commençant même déjà par la nuit où lui met en œuvre ses œuvres. C'est un temps de fragilité, mes frères, mes sœurs. Le coucher du soleil, c'est aussi un temps de vulnérabilité. C'est un moment aussi de sacrifice, nous l'avons vu, avec le sacrifice d'Abraham. Ce sacrifice-là, nous voyons, que ce soit pour l'Éternel, que pour l'homme, c'est un moment de sacrifice. C'est un moment où. Dans Deutéronome 16:6, on nous apprend, Dieu veut que son peuple consacre la Pâque. Il leur enseigne comment il va faire pour sortir de ce pays d'Égypte et il établit ça. Et il leur dit, au coucher du soleil, c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. On fait des sacrifices pour l'Éternel. Abraham même était en train de faire un sacrifice pour l'Éternel. Mais ceci est le même moment que l'ennemi cherche pour faire ses propres sacrifices. C'est aussi le moment où il veut aussi, il est à la recherche de quoi sacrifier. Alléluia. Les moments de fragilité. De même, nous allons étudier le temps, le moment où le soleil se lève. Oh, la fin de la nuit. Au moment du lever du soleil, ce sont les moments où les esprits et les ténèbres rentrent dans leur tanière. D'aucuns rentrent avec leur proie, avec leur butin, le butin de leur chat, dans leur filet. Oh, mon frère, mes soeurs, comprenons ce que l'Esprit de Dieu nous dit pour ne pas être la proie avec laquelle il rentre. Dans. Mais le moment où le soleil se lève, c'est aussi des moments vraiment charnières à ceux qui rentrent bredouille et qui sont encore à la quête pour attraper le dernier proie. Là, les Écritures nous disent des choses. Et c'est à ce moment-là aussi où que l'Éternel nous fait échapper du filet. Dans Psaume 141, versets 8 à 10, l'Éternel nous dit, tu en réchappes. Nous lisons Psaume 141, 8 à 10. C'est vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qui me tend et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Alléluia. C'est à ce moment que l'Éternel nous fait échapper de filet. C'est l'heure à laquelle les esprits sataniques et leurs dévots rentrent à leur base après leurs activités nocturnes. Et c'est aussi le moment où ils courent de peur d'être secoués et de tout perdre. Ça va être dans Job. L'Éternel dit à Job, as-tu parlé au matin? As-tu été aux extrémités de la terre? Tu l'as-tu tenu, le secouer afin que l'ennemi en tombe? La parole de Dieu, dans Job 38, dans son verset 12 et 13, on ne va pas tout lire. C'est aussi au petit matin qu'ils sont en fuite devant le verdict divin. Car c'est aussi l'heure où l'Éternel exerce ses châtiments. Nous nous souvenons du châtiment sur les premiers-nés en Égypte. Au petit matin, dans ce créneau du soleil qui se lève. C'est le créneau du moment de délivrance. Souvenons-nous de Jacob, combattant avec l'ange. Il lui dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange lui dit, laisse-moi partir, bientôt le soleil va se lever. Il dit, non, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et parce que ces tranches de temps sont spécifiques et fondamentaux, l'ange l'a béni pour s'en aller. Alléluia. C'est aussi vraiment le temps de la délivrance et de la résurrection. Souvenons-nous l'heure à laquelle Marie-Madeleine est allée au tombeau et a trouvé que la pierre avait roulé. C'est l'heure du retour à la vie, l'heure du renouvellement de l'Échana. J'ai envie d'attirer l'attention ici pour dire, l'heure de la nuit, vous savez, c'est l'heure du sommeil, profond sommeil. Parce que l'on dit même couramment, le sommeil est une petite mort. Quand on est comme mort, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Scientifiquement, il y a des statistiques médicales sur les morts, ceux qui meurent dans leur sommeil, dans la nuit, dans les hôpitaux. Et on a constaté que largement majoritairement, les morts surviennent au petit matin. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont rentrées dans leur sommeil et qui ne se sont pas réveillées parce que l'arrêt des fonctions vitales s'est opéré au petit matin. Moi, je dirais plutôt, il n'y a pas eu de renouvellement de la neshama, du souffle de vie. C'est lui qui nous anime. Parce que par la grâce divine, tous les jours, nous devons remercier l'Éternel de ce renouvellement de vie en nous. Parce qu'il souffre en ce créneau du matin. Il souffre de nouveau son être, son souffle de vie en nous. Et nous renouvelle cette vie. Alléluia. Et c'est à ce moment, dans ce moment précieux. Ces créneaux dans le temps, que ce soit le lever et le coucher du soleil, ce sont des temps particuliers où les fils doivent être en alerte et renouveler leur alliance divine. par la repentance, par les prières, par les proclamations, par l'éveil, dans leur foi en Jésus-Christ. Ce sont des temps où les fils doivent agir, saisir et posséder leur délivrance, saisir et posséder leur prédominance sur le monde des ténèbres. À l'instar de Jacob qui a lutté jusqu'au matin, de Job qui aurait dû parler et commander au matin, de ceux qui sont appelés à veiller pendant la nuit et de ne pas se laisser conduire dans un endormissement qui est une mort. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, les créneaux, nous les avons vus. Et il nous parle ici de protection, du rempart de défense. Il nous parle de position, se tenir derrière le rempart nous-mêmes. Arriver à faire un créneau pour prendre une position dans un alignement. Il nous parle de préservation. Alléluia. D'être protégé. Il nous parle de prédominance sur un marché, par une idée, dans un créneau d'affaires. Parce qu'il nous parle de garantie de réussite. Il nous parle de privilèges. Des privilèges que nous avons. À prendre conscience des créneaux et du privilège qu'il nous donnera de faire de ces créneaux des créneaux de rugby. Non, l'Éternel nous parle de providence, des choses et des positions dans lesquelles nous mettra. Pas parce qu'on les mérite, pas parce qu'on est fort, mais parce que lui-même, il veut les faire avec nous. Parce qu'il a défini en cette saison de les faire avec nous. Parce qu'il veut nous conduire quelque part avec lui. Il veut nous faire entreprendre avec lui. Alléluia. Et pour ingérer ces créneaux, pour accomplir cette activité, ce projet, ce combat, cette mission-là, moi je comprends ce qui a été expliqué, que nous ne sommes pas appelés à être passifs dans ce processus. Nous devons être actifs dans ce processus. C'est une action dynamique qui doit être mise en place. Parce que figurez-vous que ce soit dans les affaires, c'est nous qui choisissons les secteurs d'activité dans lesquels nous allons. C'est nous qui quotidiennement devons mener des actions. Dans le cadre de nous défendre ou de mener une bataille, c'est nous qui devons nous placer derrière les balustrades pour qu'ils nous servent de bouclier ou pas. C'est nous qui devons observer au travers des ouvertures pour voir l'ennemi s'il approche ou pas. C'est nous qui devons positionner les sentinelles dans ce que nous voyons. C'est nous qui devons veiller, prendre des temps de veille. C'est nous. Ce n'est pas le travail des anges. C'est des actions que nous-mêmes devons acter. C'est nous qui choisissons l'arme adéquate, la plus adaptée pour la circonstance. C'est nous qui menons ces actions. Figurez-vous, quand on veut mener une action, même un commerce, c'est nous qui devons nous lever pour aller étudier les règles du commerce. Ça ne peut pas venir seul. Le Saint-Esprit doit être en nous. Si tu ne vas pas étudier les règles de calcul, mon ami, tu ne sauras pas faire tes comptes. Si tu ne te lèves pas de chez toi pour pouvoir assister aux réunions de prière, tu ne mèneras pas les combats. Si tu ne prends pas ta Bible toi-même pour te dire « je veux lire maintenant et comprendre », tu ne seras pas enrichi de la parole de Dieu. Ce sont des actions que nous devons. Il y a pas mal de choses que nous devons faire par nous-mêmes dans ce processus de créneau de rugby dont parle l'Éternel. C'est nous qui devons prendre le temps de veille. Nous devons étudier ça sur toutes les façades. C'est nous qui devons être dans les domaines d'activité, les domaines d'action prendre. Poser des actions aussi pour être éclairés, informés. Quelqu'un qui cherche même un travail, c'est nous qui devons rédiger la lettre et la déposer. C'est nous qui devons chercher, faire le quadrillage des entreprises qui offrent ou qui répondent aux aspirations qui sont les nôtres. C'est nous qui devons chercher même les appuis, même quand on ne sait pas rédiger un bon CV. C'est nous qui devons chercher l'appui à côté pour savoir comment rédiger un bon CV. Nous devons agir nous-mêmes d'abord dans ce créneau-là. Et l'Éternel Dieu, notre Père, nous dit, ce que vous faites là, ce sont vos créneaux. Mais j'en ai besoin parce que ce sont vos créneaux que moi je vais transformer en rubis. Je ferai tes créneaux de rubis. C'est-à-dire les créneaux, là, les actes que tu poses déjà là, des choses que tu peux déjà faire là. Moi, je vais les transformer. Je vais leur donner une dimension de rubis. Alléluia. Je les ferai avec toi. Et ma contribution dans ce processus d'occupation serait de transformer tes créneaux un créneau de rubis. Oh, Abba, Père, merci. Merci, oh Dieu, pour cette promesse qui déjà nous réjouit. Nous devons être plus curieux, mes frères et sœurs. Allons voir de quelle nature. Nous allons voir la nature que va prendre notre système de défense. Allons voir la nature que va prendre les domaines d'action dans lesquels nous allons agir. Allons voir de quoi l'Éternel nous parle quand il dit que nos temps de créneaux, les temps de lever et de coucher du soleil, les temps de prière, les temps de veille, quelle nature il va leur donner? De quoi parle-t-il? Nous étions émerveillés quand nous avons vu la nature qui se mettait derrière le saphir, l'intransigeance, l'intégrité, l'humilité, la transparence, la dignité. Oh, c'était profond. Allons voir de quoi parle l'Éternel. Quand il nous parle de la nature de Rubé, qu'il va donner à notre nom. Alléluia.